Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre Jan Fischer dirige la délégation tchèque au sommet de Bruxelles. Les producteurs de lait tchèque ont protesté contre les faibles prix d'achat. Jihlava accueille le Festival international du documentaire. La question de la dérogation exigée par le président Klaus concernant la charte des droits fondamentaux document en annexe du traité de Lisbonne sera un des thèmes centraux du sommet de Bruxelles de deux jours qui se tient ce jeudi et vendredi. Cette question sera très probablement débattue pendant le dîner des leaders des 27 ce jeudi soir. C'est Jan Fischer qui représente les intérêts du gouvernement, comme cela est généralement le cas lors des sommets européens. Le chef du gouvernement est estimait qu'il s'agissait d'une présence naturelle du fait de la dérogation exigée par le président de la République. Celui-ci signera le traité de Lisbonne si la dérogation qu'il a demandée est acceptée par les 27 et bien sûr en attendant un verdict de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré à la veille du sommet Jan Fischer, se référant à la garantie qui lui aurait été donnée par Václav Klaus lui-même, et de souligner que le gouvernement fera tout pour imposer au sommet la dérogation exigée par le président tchèque. Ce jeudi, les agriculteurs ont protesté contre les prix d'achat trop faibles de lait en déversant des centaines de litres de lait dans une dizaine d'endroits du pays. Environ 500 000 litres de lait ont été déversés, quantité qui représente 7% de la production quotidienne de lait en République tchèque. La Tchéquie se retrouve au seuil d'une première vague d'épidémie grippale, c'est ce qui ressort des dernières évaluations d'experts. C'est dans le sud de la Bohême qu'une première importante contamination a été constatée. En République tchèque, le nombre de personnes infectées par la grippe porcine se porte désormais à 330. Le Premier ministre Jan Fischer se rendra à la mi-novembre au Vatican. Cette visite se déroula deux mois après celle qui avait été effectuée en Tchéquie par le pape Benoît XVI. Ce jeudi soir, le Théâtre national de Prague présente en première l'opéra « Les Jeux de Marie » de Bohuslav Martinů. Pendant la saison en cours, cette œuvre lyrique sera à l'affiche à 8 reprises. Sa mise en scène, réalisée en coopération avec l'opéra de Wrocław de Pologne, s'inscrit dans le projet Martinů Revisited. Le Festival international du film documentaire qui en est à sa 13e édition se poursuit à Jihlava. Parmi les invités de marque, on citera le réalisateur tchèque Vojtěch Jasný, établi aux États-Unis, auteur de la célèbre chronique Morave. Le festival se terminera le 1er novembre. Météo, c'est un temps très nuageux et pluvieux qui régnera encore ce vendredi, le jour de fête de tous les TADH. Sur la majeure partie du territoire, les températures qui sont en baisse varieront dans la journée autour de 10 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gebertova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Ce jeudi est lendemain de fête nationale en République tchèque où a été célébré le 91e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Nous reviendrons sur cette journée et les cérémonies qui se sont tenues à cette occasion. Mais le thème numéro 1 de l'actualité est bien entendu le sommet européen de ces jeudis et vendredis à Bruxelles. Un sommet consacré notamment au traité de Lisbonne et donc forcément à la République tchèque et à son président Václav Klaus. Un président qui se dit prêt désormais à signer le traité si l'exception qu'il demande pour son pays est respecté. Économie ensuite, les producteurs tchèques de lait protestent, ils se plaignent de prix d'achat trop faibles. Nous ferons le point sur leur situation et puis nous terminerons sur une note culturelle et plus réjouissante, avec le festival de films documentaires à Jihlava. Bonne écoute à toutes et à tous. Mercredi 28 octobre, jour de la fête nationale, et alors que le traité de Lisbonne était dans la tête et sur les lèvres de beaucoup des participants aux cérémonies officielles de commémoration, le Premier ministre Jan Fischer s'est réuni avec son cabinet pour préparer le sommet européen de ces jeudis et vendredis à Bruxelles. Il est arrivé jeudi matin dans la capitale belge avec deux bonnes nouvelles pour les représentants des 26 autres pays européens. Plus de détails avec Anne-Claire Veluire.
J'ai cette garantie, j'ai reçu la promesse du président de la République après notre rencontre mercredi soir. Je n'ai aucune raison de ne pas le croire. Ces mots sont ceux prononcés par Jan Fischer mercredi soir, peu après la mise en place du mandat pour la délégation tchèque pour le sommet européen. Václav Klaus a donc enfin assuré le Premier ministre qu'il ne formulera pas d'autres exigences si les représentants des pays de l'Union européenne acceptent de notifier dans la Charte des droits fondamentaux intégrée au traité de Lisbonne sa dérogation requise pour la République tchèque. C'est donc sans aucun doute une bonne nouvelle que le Premier ministre a annoncée à ses partenaires européens. À Bruxelles, Jan Fischer est parti accompagné d'une délégation qu'il a qualifiée de non traditionnelle puisqu'elle est composée exceptionnellement des présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que du chancelier du président de la République, Jerzy Weigel. À l'issue de cette réunion pré-sommet, Jan Fischer n'a abordé que de façon très générale la forme que devait prendre cette dérogation.
Le texte a été écrit par la présidence suédoise et il dépend d'eux de le mettre à disposition. Il n'y aura aucun découpage et la référence au passé est vraiment générale.
Le Premier ministre n'est pas encore tout à fait libre de donner des informations très précises, mais il a précisé que le texte ne se réduisait pas à la question de la rétroactivité ni à celle des décrets Beneš, ces décrets qui ont permis l'expropriation des Allemands des Sudètes. Tout semble indiquer néanmoins que la République tchèque sera en quelque sorte exemptée de l'ensemble de la Charte des droits fondamentaux, de la même façon que pour la Grande-Bretagne et la Pologne, le nom de la République tchèque devrait être accolé à ces deux pays, lui permettant ainsi de ne pas être lié juridiquement avec ce texte. La fin du suspense est attendue dans la soirée de jeudi, puisqu'il a été décidé dès l'ouverture du sommet que la question de la dérogation pour la République tchèque serait discutée pendant le dîner. À Bruxelles, ce sommet européen est déjà tourné vers l'avenir, puisque c'est le choix du futur président du Conseil européen qui est sur toutes les bouches, même s'il n'est pas dans l'agenda officiel. Ce nouveau poste est d'ailleurs une des nouvelles applications du traité de Lisbonne. Côté tchèque, Jan Fischer a confirmé que la Cour constitutionnelle rendrait définitivement son verdict le 3 novembre prochain, ce qui pourrait lever le dernier obstacle avant la ratification du traité.
Rassemblements politiques, rencontres commémoratives, cérémonies officielles, ouverture au public des sièges des institutions de la République, tel a été le programme mercredi de la fête nationale tchèque du 28 octobre, jour où les Tchèques se rappellent la fondation en 1918 de la Tchécoslovaquie indépendante. Václav Richter.
Toutes ces officialités ont été un peu éclipsées par la déclaration du président Václav Klaus, qui s'est déclaré prêt à signer le traité de Lisbonne à condition que la Tchéquie obtienne une dérogation à la Charte des droits fondamentaux européens. La problématique européenne n'a pas été absente non plus dans son discours prononcé lors du rassemblement de gala à l'occasion du 91e anniversaire de la naissance de la Tchécoslovaquie. Le président a constaté, entre autres, que les Tchèques perdent confiance vis-à-vis de l'État.
Il se produit une dangereuse érosion de l'État, conséquence du processus d'intégration européenne qui s'accélère. C'est aussi pour cette raison que certains citoyens cessent de considérer l'État comme une unité sur laquelle ils peuvent compter, avec laquelle ils peuvent et doivent s'identifier et dont le développement et le renforcement doivent être les objectifs de leurs efforts.
Les opinions du président ont été appuyées lors du rassemblement par la présidente de l'Union tchèque des combattants pour la liberté, Angela Dvořáková. Dans un discours ému, elle a appelé à une meilleure protection des intérêts tchèques.
Je regrette, mais il serait difficile de trouver dans le monde des laquais plus serviles que nous. Cela concerne surtout les hommes politiques régionaux, dont le comportement n'est pratiquement pas contrôlé par le peuple et qui font ce qui bon leur semble sans prendre en considération les intérêts de l'État et des citoyens.
Et Angela Dvořáková, de s'en prendre aux hommes politiques des régions limitrophes qui, à son avis, ne défendent pas les intérêts de l'État et des citoyens, notamment contre les Allemands des Sudètes, et cherchent avant tout le profit. Angela Dvořáková a également remercié Václav Klaus pour sa protection des décrets du président Beneš. À l'occasion de la fête nationale du 28 octobre, le président a remis de hautes décorations d'État à 23 personnalités de la vie publique et a fait monter en grade 5 officiers de l'armée tchèque. Parmi les décorés, il y a eu entre autres le chanteur Karel Gott, la chanteuse Eva Pilarova, la présidente de l'Union des combattants pour la liberté Angela Dvořáková, que nous venons de citer, le jockey Josef Vania, 6 fois vainqueur de la grande steeplechase de Pardubice, et aussi Josefina Napravilova, qui avait réussi à retrouver 40 enfants ayant été dispersés par les nazis dans toute l'Europe.
Je suis heureuse d'avoir pu ramener ces enfants et je continue à travailler avec les enfants. Je leur apprends la bonne conduite, surtout le respect des parents, mais aussi le respect des instituteurs, du peuple. Il faut qu'ils sachent ce que c'est la patrie, il faut qu'ils soient fiers d'être tchèques.
Cette année, Josefina Napravilova a fêté son 95e anniversaire. Parmi les enfants qu'elle a retrouvés, il y avait aussi ceux du village de Lidice, que l'occupant allemand a complètement détruit pour se venger de l'attentat contre Reinhard Heydrich.
Environ 500 000 litres de lait ont été déversés dans une dizaine d'endroits du pays jeudi par les agriculteurs tchèques. Ceux-ci protestent contre les prix d'achat durablement bas du lait. Actuellement, les producteurs perçoivent environ 20 centimes d'euros par litre vendu, alors qu'ils estiment que le montant du prix d'achat réel, qui leur permettrait de réaliser un profit, devrait s'élever au moins au double, soit 40 centimes. 500 000 litres représentent environ 7% de la production quotidienne de lait en République tchèque. Les actions de protestation étaient organisées par les agriculteurs eux-mêmes sur l'ensemble du territoire. Tous se plaignent d'être contraints de vendre leur lait à des prix inférieurs à ses coûts de production, comme l'explique Jarmila Čermáková, présidente de la coopérative agricole de Roštění en Moravie.
Nous trayons 7500 litres de lait par jour et nous avons décidé d'en déverser la totalité aujourd'hui. C'est un acte un peu désespéré, mais à travers lequel nous entendrons attirer l'attention des politiques et du public sur notre situation. Nous perdons actuellement 10 centimes d'euros par litre et je voudrais bien savoir quel chef d'entreprise travaille pour perdre de l'argent et en plus pendant si longtemps.
Depuis la mi-2008, la situation du lait s'est considérablement détériorée au sein de l'Union européenne. Après une flambée en 2007, les prix se sont effondrés, entraînant d'importantes répercussions néfastes sur les revenus des producteurs dans tous les pays. La République tchèque ne constitue donc pas une exception, et ce d'autant moins que la situation est critique depuis déjà plusieurs années. Ainsi, selon la Chambre agraire de République tchèque, le nombre de vaches laitières dans le pays est passé de 1 million en 1993 à 380 000 à l'heure actuelle. Une tendance à la réduction des troupeaux qui, selon le président de la Chambre, Jan Veleba, devrait se poursuivre dans les prochaines années en raison justement des faibles prix d'achat mais aussi des excédents de lait sur le marché européen. Jan Veleba est d'ailleurs très pessimiste.
L'agriculture tchèque, d'une manière générale, a emprunté une voie extrêmement dangereuse et se porte très mal. Pour ce qui est du lait, l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest augmentent leur production tandis que nous sommes contraints de réduire la nôtre. Leurs produits sont ensuite distribués chez nous. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et rien ne changera s'il n'y a pas de réelle volonté des responsables politiques tchèques.
Selon le président de la Chambre agraire, si la situation reste en l'état, le nombre de vaches laitières diminuera encore pour s'élever à 200 000 têtes de bétail d'ici 2 à 3 ans. Une diminution qui entraînerait alors environ 40 000 pertes d'emplois dans l'ensemble de la chaîne contribuant à la production et au traitement du lait. Et puis on termine avec un mot de culture. La 13e édition du Festival international du film documentaire se déroule jusqu'au 1er novembre dans la ville de Irlava, dans le centre de la République tchèque. En quelques années, ce festival est devenu une référence pour les professionnels du secteur. Claudia Butcher est l'une des chargées de programme de la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Elle a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Mon nom c'est Claudia Buche, je suis allemande et je travaille pour Arte, le département des soirées thématiques à Strasbourg dans la centrale.
Quel est le but de votre venue ici au Festival international du film documentaire de Irlava?
Je suis venue spécialement pour le forum, les pitchs des programmes qui va avoir lieu le week-end. Et là, je vais regarder dans la library si je trouve des programmes qui peuvent correspondre à nos besoins. Donc je vais visionner surtout pendant 2 jours.
Alors ça veut dire que vous visionnez, si vous voyez des films qui vous intéressent, à ce moment-là vous contactez producteurs ou réalisateurs ?
Tout à fait. On va les contacter, on va voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans nos programmes.
Alors ce n'est pas la première fois que vous êtes à Irlava. Est-ce que la première fois que vous êtes venu, je crois que c'est la deuxième fois que vous êtes là, la première fois que vous êtes venu, ça a été fructueux ?
Oui, on a trouvé quelques programmes qu'on va coproduire avec des réalisateurs des pays baltiques qui vont être diffusés en 2011 lors d'un point fort sur la chute de l'Empire soviétique.
Est-ce que vous pouvez décrire peut-être à nos auditeurs comment ça se passe un forum avec ces fameux pitchings, c'est-à-dire ces présentations en quelques minutes par chacun des réalisateurs ou producteurs de leur projet ? Quel est votre rôle à vous, juste d'écouter ou également de poser des questions ? Comment ça se passe ?
Les producteurs et réalisateurs préparent les pitchings pendant quelques jours avec des coachs. Donc, ils préparent les pitchings, ils essayent de préparer les pitchs pour un marché international. Après, pendant le pitch soi-même, il y a un trailer, il y a de la description qui porte et sur le contenu et sur les questions de production. Et les chargés de programme, les commissioning editors, posent des questions, donnent des conseils. Donc, c'est une discussion. Notre rôle, c'est pas simplement d'acheter, même si c'est toujours apprécié, mais c'est aussi de donner des conseils, d'orientation pour les producteurs des pays de l'Est, comment eux, ils peuvent produire des programmes pour un marché international.
Est-ce qu'il y a des caractéristiques de ces producteurs, de ces films qui viennent des pays de l'Est aujourd'hui, en 2009 ?
Ce que j'ai remarqué l'année dernière, c'est qu'il y avait beaucoup de créativité, beaucoup d'expérimental qu'on voit, ce qui n'est pas toujours adapté à nos grilles de programme, mais ce qui est très frais et on peut vraiment découvrir des jeunes talents. Une autre caractéristique, c'est aussi que les réalisateurs, producteurs qui présentent ici sont extrêmement jeunes et extrêmement engagés, donc c'est très très frais.
C'était donc Claudia Brucher de la chaîne Arte au micro d'Alexis Rosenzweig. Pour plus d'infos sur le festival de Irlava, ce sera dans l'émission Culture sans frontières de ce week-end. Et c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Et merci aussi de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
L'ouverture de l'exposition « Nous n'avons pas capitulé, les histoires du XXe siècle » organisée à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du rideau de fer a eu lieu aujourd'hui à Hradčanské náměstí à Prague. L'exposition est conçue comme un kaléidoscope des histoires des témoins de l'époque, reflétant les événements du XXe siècle, commençant par la Seconde Guerre mondiale, en passant par la résistance du pays et à l'étranger au cours de cette guerre, les années 1950 et les procès politiques dramatiques, le printemps de Prague, les années de la normalisation, la chute du rideau de fer et les phénomènes des régimes totalitaires tels que les déportations, la vie des prisonniers dans les camps, les actes héroïques et patriotiques. À cette occasion, j'ai choisi pour notre émission d'aujourd'hui l'histoire du héros de la Deuxième Guerre mondiale, le général brigadier Josef Hertz, ancien combattant de l'unité tchécoslovaque rallié à l'armée britannique en Afrique du Nord. Josef Hertz, né en 1917 dans un hameau non loin de Košice en Slovaquie, chevalier de la Légion d'honneur de la République française et chevalier de l'Ordre des médecins tchèques, a combattu à partir de 1940 jusqu'à la fin de la guerre. J'ai invité à l'antenne le brigadier général Josef Hertz pour qu'il nous dise comment il a rejoint l'unité tchécoslovaque et pour qu'il nous parle des combats difficiles en Afrique du Nord.
18.
Je suis parti de Bratislava le 18 mai 1940 et après un long voyage rempli d'aventures incluant un naufrage dans la Méditerranée, je suis arrivé à Alexandrie où j'ai rejoint l'armée. Après 3 semaines, j'ai été envoyé avec le 11e bataillon tchécoslovaque d'infanterie de l'Est, commandé par le général Klapalek dans le désert occidental, pour combattre contre l'armée du commandant en chef Rodolfo Graziani à Marsa Matruh. De là, nous étions envoyés au Liban et en Syrie où les Allemands atterrissaient avec leurs avions de chasse et bombardaient par exemple les raffineries de Haïfa. Ensuite, nous avons été transférés à Tobrouk. Au retour de Tobrouk, j'ai étudié à l'école d'officiers à Alexandrie et après la progression de l'armée du maréchal Rommel vers Al-Amein, notre bataillon a été transféré à proximité de Haïfa en Palestine où je suis par la suite resté comme instructeur. À l'époque, le 11e bataillon tchécoslovaque d'infanterie de l'Est a été réorganisé et est devenu le 200e régiment tchécoslovaque anti-aérien léger. En 1943, notre régiment a été transféré par voie maritime à Liverpool, en Angleterre. Puis nous avons participé à l'invasion en Europe, où notre mission était d'assiéger Dunkerque. Et après la fin de la guerre, nous sommes revenus dans notre patrie.
Au retour en Tchécoslovaquie, les premiers pas de Josef Herz mènent à son hameau natal en Slovaquie, situé entre les communes Zemplínska Teplica et Egreš, à proximité de Košice. Mais la joie de retrouver ses proches sombre au désespoir et à une profonde tristesse. La ferme a été rasée et toute la famille assassinée. Son père, l'unique survivant du massacre, travaillait pour l'auteur du crime, un riche fermier d'Egreš et commandant de la garde de Hlinka. Ce dernier le traitait en esclave et le pauvre homme s'est finalement suicidé. Josef Herz ressentait l'obligation de se venger. Il retrouve avec son frère Alexandre le fermier. Josef Herz.
Nous lui avons cassé la figure et ainsi notre tâche était accomplie. La personne en question a été hospitalisée pendant 3 semaines à l'hôpital de Košice, car elle était grièvement blessée. Puis je suis revenu à Prague où j'ai trouvé une convocation à une audience auprès du tribunal de Košice. Nous étions inculpés du délit de coups et blessures volontaires. Suite à cela, j'ai informé le procureur général militaire de Prague de ce qui était arrivé. Ce dernier a décidé d'ajourner la cause et ainsi tout a été réglé.
C'était le général brigadier Josef Herz, ancien combattant du front de l'Ouest. Josef Herz est démobilisé en 1945 et en premier lieu, il termine ses études de médecine qu'il a abandonnées au cours du 6e semestre pour partir combattre. Après la remise du diplôme, il accepte un poste de médecin à l'hôpital Sanops à Prague, destiné plus tard aux fonctionnaires du gouvernement. En 1947, il épouse la femme de son cœur qui lui donne 2 filles qui exercent également le métier de médecin. Puis il entre à l'hôpital Bulovka, toujours à Prague, comme médecin assistant. Quelques années plus tard, il est nommé chef du département de traumatologie et finalement médecin-chef du département de chirurgie. Le général brigadier n'a pas été persécuté par les dirigeants communistes après le coup d'État de 1948. Il a échappé au procès uniquement grâce au fait qu'à l'époque, le régime communiste manquait de médecins et avait un besoin urgent de toute personne pouvant travailler au sein de la santé publique. Ainsi, il a pu exercer son noble métier pendant 45 ans, puis prendre tranquillement sa retraite.
Et c'est déjà la fin pour cette fois du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet au www.radio.cz. Sinon, rendez-vous près de vos postes dès demain, même heure, même fréquence. Ce sera même encore mieux que l'Internet. À très bientôt donc. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.